Après avoir ordonné à tous les Thébains de sortir de chez eux et de se rassembler en silence pour laisser le chant en l'honneur de Dionysos se déployer de par le monde, le chœur se met à célébrer celui qu'il appelle le bienheureux. L'homme, à tel point fortuné par les dieux qu'il en vient à se confondre avec eux, à vivre dans la même joie, la même absence de troubles, soudain épargné par l'incessant va-et-vient des phénomènes qui caractérisent son existence de mortel. Mais qu'on se le dise, si tout le monde peut bénéficier d'une telle faveur, elle n'est toutefois pas accordée à n'importe qui. Loin de là. Seul celui qui se comporte comme il faut, qui reconnaît et expérimente comme il se doit la puissance des dieux, qui par suite met tout en œuvre pour se purifier de ses idées et réflexes humains, se trouve ainsi gratifié de la fortune des immortels. Initié à la célébration des mystères dionysiaques, il se voit ni plus ni moins poussé à y consacrer sa vie. Adhérant corps et âme au regroupement de fidèles qu'est le Thias Bachique, il devient Bacchan dans les montagnes. Ce n'est en effet qu'en s'engageant à plein qu'on est le véritable thérapeute de Dionysos, en même temps serviteur du dieu et thérapeute des hommes. À ce stade, le chœur associe une autre divinité à Dionysos, l'immortelle phrygienne Cybèle, qui comme Rhea incarne la déesse mère, génératrice et productrice de toute vie. Il précise que c'est de pair avec elle que Dionysos règne sur les Orgias, les mystères dionysiaques de la vie et de la mort. Mystère que le bienheureux disciple du dieu célèbre un thyrse à la main et couronné de cette plante grimpante, exubérante qu'est le lierre. Mystère qu'il ne célèbre non pas à sa guise, mais selon la loi immémoriale et inexorable qu'est la Thémis. Puis, les femmes du chœur s'apostrophent elles-mêmes. Rappelant qu'elles sont elles aussi, comme l'homme bienheureux, devenu Bacchante, elles s'exhortent à ramener chez lui, depuis la Phrygie jusqu'en Grèce, la divine progéniture du puissant Zeus qu'est Dionysos. Elles l'appellent alors Bromios, le grondant, au sens du bruit sourd, grave et terrible qu'il fait retentir, tel le mugissement du taureau, le grondement de la mer, du tonnerre ou encore de la terre qui tremble. Arrivé avec le dieu en Grèce à Thèbes, les femmes du chœur soulignent sa double gestation et double naissance. Engendré par Zeus dans le ventre de Sémélé, le petit Dionysos en est éjecté à la mort de celle-ci sous l'éclat surpuissant de la foudre de son divin amant. Première naissance largement prématurée. L'embryon de Dieu n'est pas encore prêt à affronter le monde. Et Zeus, de recueillir et coudre sa progéniture dans sa cuisse, ou tenue par des agrafes d'or, calfeutrée dans ses vigoureux muscles, à l'abri de la jalouse Héra, toujours encline à se venger des aventures amoureuses de son époux, il termine en toute quiétude sa gestation. Pour naître à nouveau, au bon moment cette fois, en parfaite conformité avec la décision des divines Moires, qui, comme leur nom l'indique, gèrent la Moira, la part impartie à chacun dans l'ordre du monde. Seconde naissance qui dévoile un Dionysos désormais prêt à promouvoir les mystères de la vie et de la mort, comme le montre déjà sa caractéristique physique. Ses cornes de taureau, signe des plus bestiales et dangereuses forces de vie, ainsi que du lien énigmatique entre le ciel et la terre. Et comme l'indique aussi la couronne dont le coiffe son père, couronne de serpent, symbole des obscures, mouvantes et insaisissables forces féminines de la fécondité, de la prophétie et de l'inspiration. C'est depuis lors relève finalement le cœur que les ménades, les femmes prises par la mania, la folie du dieu, entourent elles aussi leurs cheveux d'un serpent sauvage.